point de mire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est un privilège pour Canal Academy de pouvoir bénéficier de l'analyse d'une des sociologues les mieux informées sur toutes les questions relatives à la femme et à la famille, Madame Evelyne Sullereau. Madame Sullereau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez publié de nombreux rapports et ouvrages sur la situation des femmes, sur les relations au sein des familles entre la mère, le père, les enfants. Et je ne citerai pour mémoire que vos ouvrages récents, les plus connus, « La femme au travail »,« Tel père, tel fils »,« La crise de la famille ». Dans la médiathèque de Canal Academy, je voudrais le dire aussi à la rubrique « Éclairage », nos auditeurs peuvent d'ailleurs trouver une interview que vous nous avez accordée à propos du rapport sur la famille que vous avez établi avec Monsieur Michel Godet à la demande du Premier ministre, un rapport établi « La famille, une affaire publique ». Nous avions fait une interview et j'y renvoie nos auditeurs. Mais aujourd'hui, Madame Sullereau, nous voulons fêter, je crois que vous voulez le fêter avec nous, nous voulons fêter une œuvre qui vous tient à cœur, les 50 ans du planning familial. Comment est né le planning familial que vous avez créé ?
Eh bien, on peut dire qu'il est né il y a 51 ans à l'Académie des sciences morales et politiques.
Ah oui ?
Ce qui, étant donné qu'à ce moment-là, l'Académie des sciences morales et politiques n'était pas très féminisée, ça peut sembler tout à fait étrange. Mais il y avait un membre de l'Académie de médecine, Benjamin Veil-Lallée, le père du BCG et en même temps fondateur de l'école de puériculture, grand puériculteur, qui avait une jeune femme, gynécologue, Marie-Andrée Veil-Lallée, qui se préoccupait beaucoup de toutes ces femmes qui venaient à son cabinet apporter leur douleur, leur tristesse, parce que justement, elles étaient prises dans des problèmes sans fin, de grossesses répétées, de difficultés. Alors, Monsieur Veil-Lallée a demandé à certains de ses amis de l'Académie des sciences morales et politiques si sa femme pouvait venir leur parler d'une question extraordinairement brûlante, puisque la loi de 1920 interdisait d'en parler. La loi de 1920 qui interdisait l'avortement, la contraception, les manœuvres, etc., interdisait aussi toute propagande anticonceptionnelle et interdisait de prendre la parole sur ces sujets considérés comme donc malthusiens.
Donc on ne pouvait pas parler du contrôle de la naissance ou des naissances, c'était tabou.
C'était
interdit, c'était même interdit par la loi.
Oui, j'allais dire c'était puni, n'est-ce pas ? Il y avait des amendes, de la prison, etc. Tout était prévu par la loi de 1920. Alors je ferai une différence dans cette loi de 1920. C'était les articles 3 et 4 qui interdisaient de parler de contraception et de recommander quelque contraception que ce soit. Et donc, elle-même, Marie-Andrée Veil-Lallée, avait été avec son mari aux États-Unis où il faisait des conférences sur le BCG, puisque c'est lui qui a été celui qui s'est occupé du BCG chez les enfants. Et il lui avait dit, pendant que je fais mes conférences, tu devrais aller dans les centres de birth control. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle dit? Eh bien, ce sont des cliniques où on conseille les femmes pour ne pas avoir de grossesses répétées, etc. Elle est tombée des nues et donc elle a été aux cliniques de Margaret Sanger aux États-Unis. Et elle disait d'ailleurs que ça l'avait un peu choquée parce qu'elle était tellement habituée à ce qu'on veuille des enfants que de voir arriver des femmes qui disaient « donnez-moi un conseil, quelque chose pour ne pas en avoir », au début ça l'avait choquée. Puis elle s'est installée comme gynécologue à Paris et là il ne se passait pas de semaine, il ne se passait pas de jour qu'elle ne reçoive une femme complètement éplorée lui disant « madame, il faut absolument que j'aille avorter », etc. Alors, l'avortement lui faisait horreur, je dois insister là-dessus.
Bien sûr.
Et elle-même était mère de trois enfants, de trois jeunes enfants, Et donc, au fur et à mesure qu'elle entendait toutes ces plaintes, elle s'est dit, il faut faire quelque chose pour prévenir cela, c'est-à-dire pour faire en sorte que les femmes puissent prendre leurs responsabilités et planifier leur vie de mère. Et elle se rendait compte d'ailleurs que pour les familles, pour les couples, c'était intolérable. Elle recevait des femmes qui disaient « mon mari n'ose plus m'approcher parce que nous avons 5 enfants, etc. » Nous étions en plein bébé-boom à ce moment-là. La moyenne était de 3 enfants par couple, mais c'est une moyenne. Donc les familles de 4, 5, 6, 7 étaient extrêmement fréquentes. Et donc, elle a pris prétexte d'un affreux fait divers d'une jeune femme qui avait été condamnée et enfermée en prison pour avoir négligé son dernier enfant alors qu'elle avait eu des grossesses comme ça successives. Et elle a fait une communication à l'Académie des sciences morales et politiques à propos de ce fait divers absolument atroce. Et en interrogeant l'Assemblée pour demander justement, étant donné que dans les pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves, en Hollande, etc., on cherche à permettre aux femmes de planifier leur naissance, pourquoi nous avons-nous cette situation épouvantable, puisque nous avions à l'époque environ 6 à 700 000 avortements clandestins par an.
Dans des conditions dont on ne pourra pas parler ici.
Épouvantable, parce voilà. D'abord, il y avait des femmes qui en mouraient, il y en a beaucoup qui restaient stériles après, parce que c'était des manœuvres insensées, sans compter toutes les autres. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand elle a fini sa communication, elle a eu un soutien extrêmement important de la part, je distinguerai 3 personnalités qui l'ont soutenue.
Trois académiciens de l'Académie des sciences morales.
Oui. L'un était le pasteur Marc Bögner, président de la Fédération protestante de France et président du Centre œcuménique des Églises, qui lui apportait tout le soutien qu'ensuite, d'ailleurs, l'Église réformée a toujours apporté au planning familial, parce que justement, c'était une morale de la responsabilité. La deuxième personnalité plus étonnante, c'était Gabriel Marcel, philosophe catholique.
Catholique, oui.
Et je tiens à dire que Madame Veilalé elle-même était catholique. Donc, il ne faut pas croire que le planning a été une affaire comme ça de libres penseurs. Et la troisième personnalité qui l'a soutenue, c'était Georges Duhamel, grand écrivain, mais en même temps médecin, et qui, comme médecin, justement, lui a apporté tout son soutien. Toute cette séance est devenue, dans le journal Le Monde, un petit article de quelques lignes, un tout petit encadré, que mon mari m'a montré en me disant « Tiens, voilà une chose qui va t'intéresser ». J'ai donc lu cela et j'étais tellement enthousiasmée parce que moi, j'avais 4 enfants, mes sœurs, belles-sœurs, amies en avaient toutes 3, 4, 5 et on était épuisés et on ne pouvait rien faire du tout d'autre que de se fatiguer, comme disait le docteur. Et donc, j'ai écrit à cette Madame Veilalé que je ne connaissais pas en lui disant, voilà, je n'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, mais je me mets entièrement à votre service parce qu'il me semble que même si de beaux esprits à l'Académie des sciences morales et politiques vous ont approuvé et soutenu, ce sont les femmes qui doivent faire quelque chose.
Bien sûr.
Et donc, il faut que nous fassions une association féminine. Qu'est-ce que vous en dites?
Étiez-vous déjà sociologue?
Pas du tout.
À ce moment-là, pas du tout encore. Vous étiez mère de famille.
J'étais mère de famille. Mon dernier avait 2 ans. Et Marie-André Veilalé et moi, quand nous avons fondé le planning, nous avions 7 enfants de moins de 12 ans, à nous deux.
Donc, vous avez déposé les statuts d'une association tout de suite?
Quand elle a reçu ma lettre, elle m'a téléphoné immédiatement. Et elle m'a dit « venez me voir ». Et quand je suis arrivée, elle m'a dit « écoutez, je vais demander à mon mari de venir parce qu'il trouve votre idée excellente, mais nous choisissons, lui et moi, la meilleure stratégie pour parvenir à quelque chose. Et d'autre part, je voudrais bien savoir dans quel esprit vous voulez cela ». Et nous nous sommes tout de suite retrouvés, je tiens à le dire vraiment, parce que nous n'étions ni l'une ni l'autre malthusiennes, nous n'étions pas du tout pour un arrêt des naissances, etc. Nous faisions pas ça du tout pour la liberté sexuelle de la femme, nous faisions ça pour les familles, pour vraiment l'harmonie des couples et des familles. Et comme vraiment nous avions les mêmes motivations, les mêmes valeurs, Monsieur Veilalé nous a dit, écoutez, nous allons commencer par faire une campagne de presse, mais pendant ce temps-là, vous allez me faire une belle association et mettez-y que des mères de famille et quelques femmes de personnes célèbres, d'hommes célèbres, de façon à ce que, si on vous arrête, ça fasse du bruit.
Voilà, on en parlerait dans la presse.
Voilà. Et donc, nous nous sommes donné 15 jours pour trouver les 20 femmes qui ont fondé vraiment le planning. Et à toutes, j'allais les voir, je recueillais leurs signatures et je leur disais, nous sommes quand passibles quand même d'être inquiétés par la oui. police. Et donc, j'ai réussi à réunir les personnes qui étaient les unes libres penseurs, les autres protestantes, les autres catholiques, les autres juives pratiquantes. Il y avait de tout et d'un très bon niveau intellectuel. Et donc, nous avons déposé les statuts et nous avons appelé l'association « La maternité heureuse ».
Oui.
Parce que nous voulions l'appeler la maternité volontaire et c'était trop risqué. Donc, au bout de 2 ans, nous avons changé le nom parce que nous avons admis les hommes. Et donc, à ce moment-là, on l'a appelé Mouvement français pour le planning familial. Mais encore une fois, familial. Voilà. Et nous avons commencé avec 20 personnes, donc dans une semi-clandestinité. Et puis, nous avons été très aidés par un journaliste, Jacques de Rogy, qui nous a écrit un livre « Des enfants malgré nous » publié aux éditions de Minuit, les éditions de Minuit ayant été tout le temps à nos côtés. Et comme ça, nous avons eu un succès très, très rapide, au point que, au bout de 10 ans, il était tout à fait possible de passer dans le secteur public, à l'assistance publique. Mais nous avions tellement d'adhérents et d'adhérentes qui, pour certains, étaient très excités, qui ont essayé de faire du planning une sorte d'état dans l'état, une sorte de mouvement politique, vous voyez. Et donc, quand Marie-André Veilalé a pris langue, par exemple, avec Monsieur Neuwirth, qui était ministre de la Santé, elle a été accusée par la base de comploter avec le pouvoir, etc., etc., ce qui fait qu'elle en est partie, et moi aussi, parce que nous ne voulions rien avoir avec les trublions, si vous voulez, pour qui c'était l'avortement d'abord, etc.
Vous ne partagiez plus les mêmes valeurs avec certaines adhérentes.
Oui, nous avions un slogan qui était la loi de 1920, a cousu dans le même sac le mal et le remède. Pour nous, le mal, c'était l'avortement et le remède, c'était la contraception. Et que donc, il fallait commencer par éduquer à la responsabilité toutes les jeunes filles et les femmes, et non pas se précipiter dans la rue avec des badges, j'en ai vu avec des badges avec écrit « je veux avorter », je vous demande un peu comme
mais ça
si
n'est pas du tout dans l'optique dans laquelle vous avez fondé, vous l'avez dit, oui, le planning familial.
Nous étions ni l'une ni l'autre, nous n'étions pour que l'avortement soit puni, bien sûr que non, et nous avons tout à fait approuvé la loi de Madame Veil, qui était donc de lever les punitions, mais ce que nous cherchions à faire, c'était une éducation à la responsabilité, avec en même temps, de la part de Marie-André Veilalé, une éducation de tous les médecins, étudiants en médecine et tout ça, qui ne savaient rien sur cette question.
Oui, ni les hommes, ni les femmes ne s'étaient penchés, ni les médecins, voilà.
Ni les infirmières, ni les sages-femmes.
Evelyne Sulro, il me reste à vous remercier infiniment d'être revenue à Canal Academy, nous raconter pour cette semaine exceptionnelle que nous consacrons aux femmes, nous raconter l'histoire d'un grand moment, tout de même dans l'histoire des femmes, la création du planning familial. Je voudrais préciser que vous allez prochainement, en avril 2006, sortir un livre qui s'appelle « La pilule, le sexe et l'ADN », qui sont les 3 piliers, les 3 mots,
révolutions,
3 révolutions.
Qui ont bouleversé la famille.
Voilà. Madame Sulro, merci infiniment et nous nous retrouverons une prochaine fois. À bientôt.